Marcel Ruffo, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde.
Merci d'être venu nous rendre visite à Bordeaux pour ce livre que vous co-signez avec le professeur Philippe Duverger et qui s'appelle « Qui commande ici ? Conseil aux parents d'enfants tyrans ». Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que après avoir lu votre livre, on a envie de vous appeler Marcel, on a envie de venir vous voir même si on n'a pas de problème. On a envie de papoter avec vous, on a envie de continuer cet échange, en fait, j'ai envie de dire presque de façon familiale. Est-ce que la pédopsychiatrie, pour vous, finalement, c'est un lien de famille, avant tout, y compris dans votre rôle?
Oui, mais en fait, je vous remercie. L'idée, c'est que la pédopsychiatrie, c'est un vilain terme. C'est finalement très peu psychiatrique. C'est plutôt... La médecine du développement de l'enfant en alliance avec les parents et la famille. Pédopsychiatrie, ça me plaît pas beaucoup, quoi, le terme psychiatrie. C'est... Alors, bien sûr, quand on s'occupe d'enfants psychotiques, d'autisme gravissime, de déprimés, de mélancoliques, d'accord. Mais vous voyez, tout de suite, là, il y a un adultomorphisme. Tout de suite, je parle comme un psy d'adulte, quoi. Alors que la chance extrême de la pédopsychiatrie, c'est qu'on ne sait pas ce que vont devenir les enfants qu'on rencontre. Ce que nous reprochent d'ailleurs les psychiatres d'adultes. Mais en même temps, on ne sait pas, et de temps en temps, on a des inquiétudes, on le marque, mais la réserve d'espérance de la pédopsychiatrie est essentielle. Et puis, il y a un truc qui est incroyable en pédopsychiatrie, on est hyper utile quand on ne sert plus à rien, quoi. Donc, vous rendez compte. Si votre cardio, il dit « je veux plus te voir », vous lui dites « je porte plainte ». Tu vas examiner mon cœur et le réexaminer ou... Alors que le pédopsychiatre, quand il vous dit « bonne route, salut », c'est... Et tiens, je vous raconte une histoire, immédiatement. Il y a longtemps, la gosse, d'ailleurs, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, elle est à Bordeaux, je vois une jeune fille mutique qui ne parle pas à l'école, qui ne parle pas au psy, donc, et qui ne parle pas, parle en famille à son père. Elle a perdu sa mère. C'est un élément majeur, évidemment. Et on part sur l'histoire du deuil sidérant de cette petite fille. Mais les années passent, elle rentre en CP, elle ne parle pas, et puis ça continue, elle ne parle toujours pas. Et voilà Tipa que son jeune frère se met non plus à pas parler, une épidémie, quoi. Alors que lui, quand sa mère est morte, il avait quelques mois, donc il est couvert par l'amnésie infantile. Il ne peut pas avoir vécu la mort de sa mère, il a vécu l'absence de l'interaction, mais il n'a pas vécu la mort de sa mère comme cette petite fille qui avait 6 ans à l'époque de sa mère, donc à l'âge où les enfants, justement, ont l'idée de mort. Non. Dans le développement de l'enfant, il y a l'espace, la motricité, le rond, le bonhomme, et puis le temps. Le temps, quand je serai vieille, quand tu seras vieille, quand je me marierai, etc., le temps. Et donc ça continue, et Ça surtraîne, quoi, tu vois. Alors, on la met dans un établissement génial, dans le Haut-Var, un truc fabuleux, avec des enseignants détachés qui lui font suivre une scolarité. Et jusqu'en troisième, donc à 14 ans, quoi, 13 ans, elle ne parle pas, quoi. Puis la limite de l'établissement est acquise, et elle sort, et je perds sa trace. Puis les années passent, et je reçois un coup de fil. Allô, bonjour, Ruffo. Je dis pas son prénom, mais c'est dans la salle, purée. Donc, appelons-la Élodie. Oui, c'est Élodie. Vous vous souvenez de moi? Je parlais pas, donc déjà... Je dis, calme-toi au téléphone. Ça. Oui, bien sûr que je me souviens de toi, et je me souviens aussi de ton frère. Vous savez ce que je suis devenu? Je dis non, psychologue. Et je vis à Bordeaux avec un pédopsychiatre qui est très jaloux de vous. Je dis, c'est bon signe, je dis. Et alors, je dis, mais... Et elle me dit, et je voudrais, maintenant que je suis psychologue, que je m'occupe d'enfants, vous expliquer pourquoi je ne parlais pas. Et alors, tu vois, je me vois au téléphone, je dis, pourvu que ça ne coupe pas, pourvu que ça coupe. Et elle me dit, ben, ma mère est morte, comme vous le savez. J'ai toujours pensé que c'était la clé de l'explication, mais j'avais pas d'explication. Et elle me dit, et mon père et moi, avec mon jeune frère, tous les soirs, quand je rentrais à la maison, quand vous essayez de me faire parler, on se mettait autour de la table, on mettait les mains sur la table, et mon père disait « Taisez-vous, maman va nous parler. » Merci, Élodie. Quoi. Et
est-ce
elle m'a
que...
dit...
Oui.
Pardon. Non, non.
Cet exemple, vous le racontez dans votre livre, il raconte aussi d'autres formes de tyrannie que celles que l'on imagine. Voilà, je vous interromps juste pour vous dire
alors,
que
alors, et puis,
vous parlez de beaucoup de formes de tyrannie, ouais, mais, y compris celles à notre rencontre.
Là, elle est tyrannisée par une histoire douloureuse. Elle n'est pas tyranne, elle est en souffrance. Si je prends cet exemple, c'est que les tyrans souffrent, quoi. Les tyrans sont malheureux, quoi. Il n'y a pas de tyran heureux. Ils terminent mal, en général. Hein. Et plutôt qu'enfant tyran, on aurait pu dire enfant qui tyrannise, quoi. On aurait pu décliner plutôt qu'enfant tyran, qui est un peu dur, quoi, finalement. Hein, comme on en a rediscuté avec Philippe l'autre jour. Je dis, mais c'est vrai aussi que il y a des tyrans de 2-3 ans incroyables. Ils sont incroyables. Pas le pot, pas la soupe, tais-toi, non, je me jette par terre, je me gueule comme un putois. Tout le monde croit qu'on l'a battu, quoi, tu vois. On a envie d'ailleurs, hein, malgré la loi qui vient de passer. Hein.
Et c'est un sujet qui concerne quoi ? L'éducation, la psychiatrie, les deux ?
Je crois que ça concerne, c'est curieux ce que je vais dire, ça concerne la démocratie familiale. Quoi. Ça concerne le fait que les parents ont fait tellement de progrès, les pères par exemple, purée, les pères actuels, moi je sais... Mon gendre me fait honte, quoi. Chaque fois que je le vois avec ma petite fille, je lui dis, il est merveilleux, ce type. Pourtant, il est de Strasbourg, il est exotique. Enfin, je dis, incroyable, ce mec, ce qu'il est gentil. À tel point que moi, l'autre jour, je me suis disputé avec cette petite fille. Elle s'est mise à gueuler. Il est méchant, papy, etc. Je dis, non, je suis normal. Tu me casses les pieds. Et je me disputais avec elle. L'autre est arrivé, allez, viens, il l'a pris dans ses bras. Je me suis tué. J'ai plus le droit là, au chapitre. Mais en même temps, je m'en fous, je l'ai allumé. Je ne vais pas me laisser faire à part un truc de 3 ans et demi. Tu vois, fut-elle ma petite fille. Donc, je veux dire, il y a cette particularité aussi que les parents veulent être de bons parents, alors que nous, on était des parents moyens, quoi, bon, quelconque. Et ils veulent aussi que leurs enfants soient heureux. C'est un truc curieux. Tu ne peux pas être toujours heureux. Les malheurs, les difficultés te constituent. On le voit bien avec... Bon, moi, j'ai été au ministère conseiller d'un ministre de droite et de gauche, comme ça, c'est bien, ça fait Macron, ça fait l'actuel politique français, de Châtel et de Vincent Peillon, sur le harcèlement. C'est vrai que le harcèlement a toujours existé, finalement. Le harcèlement a toujours existé. Mais c'est vrai que maintenant, il est développé, etc. Et regardez aussi comment les parents... naturellement défendre les victimes, mais en même temps il faut s'occuper de l'agresseur qui lui-même est victime chez lui, parce que le bourreau, il est très malheureux, quoi. La victime, bien sûr, a tous les droits d'être défendue, mais si on s'occupe pas du bourreau, on lui donne aucune chance. Et voyez, c'est dans cette stratégie de... Et autre chose aussi, je le vois par exemple avec les parents veulent plaire à leurs enfants aussi. C'est un truc très curieux si on réfléchit. C'est normal qu'ils nous aiment, puisqu'on est leurs parents. Tu vois, je veux dire, on n'a pas à faire d'efforts, normalement. Je veux dire que, je ne sais pas, une fois, moi, il y a longtemps, à notre fille, je sais pas ce que on parlait, et puis je lui ai dit à un moment donné, un lapsus incroyable, je dis, mais moi, je me voudrais comme père. Puis c'est vrai, d'ailleurs. Alors donc je lui ai balancé ça en me rendant compte, mais tu te rends compte de ce que tu dis. C'est-à-dire que on veut plaire à nos enfants. On veut plaire à nos enfants et donc, quand on veut plaire, quand il y a de la séduction, il y a aussi parfois de l'érotisation, de la dissimulation, de la difficulté, des sentiments de rejet, des histoires comme ça complexes ou quoi qui apparaissent. Et c'est pour ça que très très souvent, je prescris la séparation une fois par semaine chez les grands-parents, chez des amis. On est en train de mettre en place un système pour les enfants adoptés à l'adolescence de week-end d'hospitalisation, enfin dans des endroits sympas, mais pour que la famille souffle, tu vois. De dire, bon, alors avec accord de l'adolescent, hein, pas, ou de l'adolescente, pas un truc de contrainte. Et donc, cette démocratie familiale fait naître des pouvoirs, quoi, de l'enfant. il est tellement important. Puis alors, ne parlons pas des enfants nés par FIV, des enfants nés par PMA, nés par grossesse pour autrui. Je le raconte dans le livre aussi. Je vais raconter tout le livre, comme ça, c'est pas la peine que vous lâchiez. Donc, je vois une petite fille avec un couple de garçons, quoi, qui ont eu cette gosse grâce à une grossesse pour autrui, une mère porteuse aux États-Unis. Au demeurant, ça vaut 55 000 dollars. Hein. Je vous donne les prix. Donc, quand tu es riche, tu vas aux États-Unis. Quand tu es moyennement riche, tu vas en Ukraine. Et quand tu es pauvre, tu vas en Inde. On est d'accord ? Et une géographie de la grossesse pour autrui qui est fonction de la mondialisation. Aussi de données commerciales. Cette petite fille, elle bénéficie d'un don d'ovocytes, non pas de la porteuse, mais d'une avocate américaine un peu curieuse, très connue. C'est pas Madame Obama, hein, non. Donc c'est une avocate américaine connue. Et puis la petite fille qui a 4 ans, j'ai vu dans ma carrière une quarantaine de gosses nés par grossesse pour autrui. Et j'ai bien compris ce qui se jouait. Les garçons voulaient me faire dire il ou elle va bien, quoi, comme un label, comme un truc de une visite de contrôle de développemental, vous voyez. Et c'est vrai qu'elle va bien, cette petite. Et quand je suis seul avec elle, elle me dit je peux te poser une question. Je dis je veux bien. Pourquoi j'ai deux papas et pas de maman? Alors je dis c'est plus compliqué que ça. Tu as deux mamans et un papa. Ouais. Parce que c'est ça la réalité. Il va falloir qu'elle chemine en ayant deux mamans et un papa, et donc c'est elle peut aller bien, hein. J'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais en même temps, vous voyez, c'est complexe. C'est complexe. Et donc, apparaît dans les progrès aussi du désir d'enfant, aussi, du désir d'enfant, de l'importance qu'a pris l'enfant, quoi. L'importance qu'a pris l'enfance, sa place qui devient une place forte, quoi. Il est d'autant plus fort qu'il est. Et alors, ne parlons pas des nouveaux grands-parents aussi, parce que. Il y a quelques années, j'avais écrit un bouquin sur les grands-parents, alors que je n'étais pas grand-père. Ça m'amusait beaucoup. Je me tue à la fin, je meurs, tu vois. Vraiment, c'est un bouquin essentiel pour moi. Je me tue, elles vont me regretter. Bon, alors, et maintenant que je suis dans ce coup, quand je suis grand-père, je m'aperçois que c'est drôlement plus intéressant encore que l'imagination, quoi. Parce que c'est vraiment une question de survie. L'autre jour, quand j'étais à Strasbourg, comme vous le savez, mon gendre est alsacien. Et que je me baladais dans la petite France, je vois une jeune fille qui passe avec une amie, quoi, des gosses de 16-17 ans, et j'imagine ma petite fille se promener dans la petite France à une époque où je ne serais plus là, quoi. Et donc c'est génial. C'est génial. Je dis, tiens, je vois quelque chose d'une projection, d'une transmission, d'un maintien. Donc on est bien d'accord que les enfants, ça nous aide à vivre, quoi. Et ils le savent. Et alors, en même temps, ils repèrent parfois des souvenirs enfouis, des secrets, des attitudes familiales, des fragilités familiales. Quand tu es fragile, tu as peur de transmettre une fragilité. Tu veux toujours que tes enfants réussissent mieux que toi, et ainsi de suite. C'est ça aussi. Alors, vous rendez compte, le donjon inexpugnable sur lequel est l'enfant, quoi. Dès qu'il pleure, il est anxieux ou il a mal, il fait les dents. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va le laisser à la maternelle alors qu'on les laisse tous, hein, parce qu'on les adore, mais on les colle tous en maternelle, hein. C'est fou ce qu'on les aime, maintenant on dégage, hein, c'est un truc, une évidence, hein. Et c'est génial parce que il faut se séparer pour grandir. Et c'est vrai aussi que la prescription, je parlais des grands-parents, la prescription des grands-parents est quotidienne chez moi, dans les consultations, sur consulte 2 jours et demi par semaine actuellement. Mais au moins une ou deux fois, je prescris des grands-parents, quoi. Et ça marche, quoi. Et je disais sur une interview qui va apparaître sur Elle, là, je disais, quand t'as un grand-père qui a été adjudant-chef et une grand-mère institutrice, c'est famille d'accueil absolue, tu vois. Là, t'as tout, là. T'as. Les psys, ils n'ont plus que dalle à faire, quoi.
Vous parlez beaucoup dans votre livre aussi du lien de la confusion qui est faite entre le pouvoir et l'autorité. Vous citez Hannah Arendt, Daniel Marcelli, oui. Vous citez, voilà, le principe de la relation qui n'est pas une relation hiérarchique, mais une relation symétrique, qu'on a complètement perdu de vue.
Oui, parce que, je veux dire, actuellement, je le vois sans arrêt, en consultation. Bon, quand il m'amène un petit enfant en consultation, ou un écolier, ou un adolescent, c'est quelque chose qui va pas bien. Donc, je commence toujours par m'adresser à l'enfant, même au bébé. Hein. Je dis, pourquoi tu viens me voir? Alors, les parents sont étonnés. L'autre jour, d'ailleurs. À ce propos, il y a une chipie qui faisait caca que dans les couches et qui voulait pas aller au pot, etc. Et je commence à lui dire, dans le fond, tu veux accoucher d'un bébé caca, tu es dégueulasse. Je parle au bébé. Les deux parents étaient étonnés. Ils ont dit, on est venu voir un fou, quoi. Enfin. Et la petite, elle, par contre, tu vois, avait les deux yeux plantés dans les miens et écoutait tout. Alors, elle ne comprenait pas mes loufoqueries. Bon, ce que je pense de la rétention, de l'oncoprésie, ça, c'est des trucs de psy. Mais n'empêche qu'elle comprenait que je lui parlais de son caca, de sa rétention, du fait qu'elle ne voulait pas aller au pot. Gosse de 3 ans, 4 ans, 4 ans. Donc, je fais ce discours et je dis, bon, maintenant, je crois que tu as compris. Et tes parents vont te mettre sur le pot, puis comme ça, à des heures fixes. Puis maintenant, comme tu es en section, en moyenne section de maternelle, il y a la marre, t'es dégueulasse, et c'est plus possible, etc. Bon. Et c'est pas sale, et tu joues pas, et voilà, tu me fais pas le cinéma habituel d'une pré-oncoprésie. Les parents partent un peu étonnés, sans doute, sauf que ils téléphonent à ma secrétaire et amie en rentrant chez eux, et ils disent, dites à Ruffaut, quand on est rentré à la maison, elle a dit, je vais aller au cabinet. Elle a tellement été choquée par mon intrusion dans son système inconscient et psychique, enfin, de souffrance par régression. Elle a vu aussi un petit frère, tout s'explique. Le drame dans la vie, c'est d'avoir un frère ou une sœur, et ça, c'est un des drames potentiels, avec les parents qui disent on les aime pareil. Il faut négocier. Et donc, on a ainsi tout un registre d'interprétation. Et moi, je veux dire que quand on ne met pas un sens sur une situation, c'est le psy qui est en cause, c'est qu'on n'a pas compris, quoi. On le met dans le livre avec Philippe, on marque aussi des erreurs, des échecs, des trucs où on comprend rien, quoi. Parce que c'est ça qui compte aussi. J'étais en Corse, là, avant de venir ici, et je vais acheter des carrelages. Et le type, j'achète des carrelages pour une tour pisane, toute beauté, là. Bon, enfin, bref. Et j'achète des carrelages. Et le type, il me parle de ces carreaux, il me fait... Donc j'écoute, je comprends rien, je fais semblant de m'intéresser, mais... Puis il me dit, mais je vous connais. Je lui dis, bah, peut-être que vous m'avez vu au bar ou sur la plage, etc. Et puis il me dit, il parle de psychiatrie. Je dis, ah oui, ce que je fais. Ah, il me dit, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Je lui dis, rien, j'achète des carreaux. Honnêtement, je pensais que dalle. Mais tu vois, Et donc, il y a ce côté psy-attitude qui me paraît dangereuse, tu vois, l'attitude, le psy souffleur, le cachalot qui fait et qui te dit rien. Non, le psy, parfois, il comprend rien. Il le dit, je comprends rien, j'ai rien compris à cette histoire. Il faut qu'on se revoie. Et l'adolescent est ravi de ça, parce qu'en plus, notamment l'adolescent, il se planque dès qu'on l'amène voir le psy. Il fait tout et n'importe quoi. Il dit un truc, la fois d'après, il dit un autre truc, la troisième fois, il dit encore un truc différent. Et la quatrième et cinquième fois, peut-être, il accède à une discussion ou pas. Et je disais tout à l'heure en aparté, vous vouliez pas que je continue, qu'on va développer dans des endroits où je travaille une consultation par Skype pour ceux qui veulent pas venir. C'est-à-dire on ira sur l'ordinateur et on les verra en vidéo.
Je voulais pas que vous continuiez sans qu'il y ait des témoins sur cette modernité. C'est-à-dire que en fait la psychiatrie évolue. Vous devez changer. Vous racontez dans votre livre que les choses ont beaucoup changé depuis les années 60 où tout le monde était surdoué. Ensuite, on est passé à une période où tout le monde était hyperactif, tous les enfants, plus précisément. Et aujourd'hui, il faut composer avec le rapport aux écrans.
Ben oui, parce que c'est d'évidence. D'évidence, cette société actuelle est société de l'image. Et on le dit dans une librairie, quoi. Société de l'image. On n'échappe pas à l'image. Tu as les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'est d'abord une image. C'est des revendications qui les concernent et qui sont audibles ou pas, ça dépend des positions, mais en même temps, c'est une image. Et d'ailleurs, regardez la couleur, quoi, tu vois, la couleur, le fait, notre député des Landes en gilet à l'Assemblée nationale, bon, d'accord, mais il est original, on est d'accord, c'est pas... Mais, et donc, en même temps, on voit que les enfants, et surtout les adolescents, moi, par exemple, une enfant timide et qui parle pas, on leur propose groupe de parole, psychodrame, dans le système classique de pédopsie. Moi, je leur propose promeneurs sur la toile, c'est-à-dire ils peuvent aller sur un site et il y a 40 professionnels qui sont inscrits qui peuvent répondre à leurs questions. C'est un succès colossal. Non, non, il y a des psys, des assistantes sociales, des éducateurs, des enseignants. Promeneurs sur la toile, tu as un site, ils tapent et ils y vont. Et on s'aperçoit que c'est des gosses qu'on ne voit pas. Ou que peut-être on va voir. Parce que l'idée géniale, c'est que, tu vois, je pense, quand un adolescent est accompagné par ses parents, c'est gagné, quoi. Tu vois, et même s'il dit, c'est mes parents qui m'ont emmené, je voulais pas, ça va, on dit, d'accord, écoute, on va rester seul, on va discuter, etc. Mais ceux qui viennent pas, quoi. Ceux qui s'isolent et qui s'enfouissent dans des difficultés. Ceux-là, par les réseaux sociaux, par la toile, on peut les aborder. Je pense en particulier, on a ouvert dans l'unité que j'anime, là, ils m'ont collé à une direction aussi de psychiatrie adulte, alors que j'y comprends rien, quoi. Enfin, bref. Et on a mis une unité de jeunes étudiants, de jeunes adultes. Vous savez, les garçons et les filles qui font 3 premières années de fac. Pour moi, c'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe de malaise, quoi. Soit ils font un truc, puis ils changent, notamment ces études idiotes de médecine là, avec le PACES, qui est un drame. Tu échoues avec 14,5 de moyenne et ayant travaillé 15 heures, tu t'en remets comment, tu vois, bon. Et puis tu sors à 50 places de l'entrée du numerus clausus, tu vois, bon, enfin bref. Et à ce moment-là, tu fais droit, ou tu fais bio, puis tu échoues, tu arrêtes, puis tu fais art déco, puis tu arrêtes. Ceux-là, il faut les prendre en charge. On a fait une unité de jeunes adultes qui remplit rapidement. Il y a 20 places en Marseille. Bon, on a été plein en 2 mois, quoi. C'est intéressant. Des gosses en 3e année d'archi qui n'arrivent plus à écrire, qui n'arrivent plus à raisonner. Une fille en orthophonie qui a maintenant peur de voir les patients. Un gosse en médecine qui a peur de la médecine dans laquelle il a intégré, il a réussi. Enfin bref, un diabétique non compliant qui veut arrêter son métier d'éducateur sportif parce qu'il est diabétique et il va faire un malaise. Vous voyez des histoires. Un cancéreux guéri qui pense qu'il a plus d'avenir parce que le cancer, la leucémie, lui a coûté 2 années d'études et a pris du retard. Il a 23 ans à l'âge de rentrer dans les études. Donc tout ça, c'est bien, ils viennent. Mais les pires, c'est des gosses qui restent chez eux, qui ne sortent plus, qui s'enferment dans la chambre, qui n'ont de contact que peut-être avec le généraliste de la famille et encore. Et puis qui commencent à rester sur la toile 7 heures, 8 heures, qui ne travaillent plus, qui n'ont plus d'avenir, et qui commencent à tyranniser leurs parents, à tyranniser gravement leurs parents. Cela, le moyen, c'est la toile. On va communiquer avec eux. Et je suis persuadé, enfin, je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'on en amènera aux soins comme ça. Et donc, vous voyez que entre la petite fille qui regarde le Roi Lion et ce gosse isolé dans sa chambre qui a fait 3 ans d'études universitaires et qui tournoie, il y a une continuité. C'est l'image comme ressource, comme possibilité de communication, alors que la communication s'étiole, quoi. Alors, bien sûr, comme média, je préfère la radio. Je trouve que la radio, c'est ce qui représente le plus la pensée, quoi. Je me souviens de... Il y a longtemps, je faisais des émissions sur Europe 1 de 23h à minuit. Je me régalais, quoi. Parce que je pouvais rester 20 minutes avec l'auditeur. Je m'en fous. Puis c'était anonyme. Je le voyais pas, il me voyait pas. Et c'était de 23h à minuit. J'avais un auditoriat captif. Ceux qui viennent étaient intéressés, c'est pas... C'est pas le matin quand tu es dans les embouteillages avec nos camarades et les gilets où tu attends à la radio, tu vois, c'est pas ça. Donc c'était quelque chose qui m'intéresse. Mais je crois que les réseaux sociaux, regardez l'importance aussi du tout et n'importe quoi. Comment ça révèle aussi une fragilité quand un adolescent croit ce qu'il y a sur la toile, c'est pas très bon signe. Quand il n'est pas critique, c'est un signe clinique. C'est pas une addiction. Et puis, quand tu es addict des jeux vidéo, c'est que tu n'es pas à l'aise dans la réalité du jeu social, du jeu relationnel. En même temps, quand on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels. Hein, il faut le savoir, ça a été démontré. Puis moi, je suis désolé. je m'adresse aux garçons dans la salle. Si à l'adolescence, tu as une fille ravissante à laquelle tu as pas envie de parler, tu peux pas parler, tu lui envoies un texto ou un truc, mais sur réseau social, c'est génial. C'est génial, c'est purement génial. Il y en a une qui m'a téléphoné, là, de Miami. C'était une gamine, quand on avait 16 ans, qui était la plus belle de ma ville. Et moi, j'en avais peur, tellement elle était jolie. Et là, elle m'appelait de Miami, mais c'est tard. C'est tard. Vous voyez, c'est tard. C'est tard. À l'époque des réseaux sociaux, ça aurait été mieux.
Dans votre livre, vous dites que le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans le suivi, l'accompagnement, le lien. Alors, du coup...
Le jeu Winnicott, et puis Yvonne Lindquist, qui a créé les ludothérapeutes en Suède, qui a créé dans les hôpitaux suédois quelque chose du jeu, de spécialiste du jeu, articulant entre le soin et l'éducation et le jeu. Quoi. Le métier de l'enfant, c'est jouer. Le métier du petit enfant, c'est jouer. Les psychomotriciens le savent bien. Le jeu libre, l'observation du jeu, les éducateurs de jeunes enfants, les psychologues, etc., les analystes intelligents, il y en a. Donc, Mélanie Klein, qui, par exemple, jouait avec les enfants, avec un jouet qu'elle sortait, le gosse choisissait un jouet, elle le mettait dans un petit tiroir, puis elle le refermait à clé, et le gosse ouvrait et reprenait son jouet pour la continuité du jeu avec elle. Vous voyez, c'est... Donc, puis le jeu, il faut savoir que l'enfant joue d'abord à deux et joue en groupe qu'à 4 ans. Enfin, c'est toute une ontogénèse du jeu qui est fondamentale. Et d'ailleurs, le Montessori, Freinet, etc., l'éducation nouvelle qui date de 1910, c'est ça. C'est créativité, observation, jeu libre. C'est ça qui compte. Mais attends, dans les maternelles, dans les crèches, il y a des gens admirables. Hein, moi, je sais que je me régale. Honnêtement, je me régale. La petite enfance, c'est l'avenir de notre pays, quoi. C'est là que ça se joue. Ça se joue là. Le fait qu'on sait qu'un enfant en crèche se développe mieux qu'un enfant avec sa maman et sa grand-mère. Il faut faire gaffe à ce que je dis, là. Je vais être antipathique. Mais c'est vrai. Parce que quand on voit deux nourrissons sur des bébés relax qui tiennent même pas encore assis et qui essayent de communiquer en se touchant, purée, tu te dis que sociabilité précoce, ça aide à l'altérité. L'autre est comme moi. Et donc la petite enfance, c'est un truc fondamental, quoi. Fondamental. Et en plus, c'est tellement intéressant d'être dans la dynamique d'un progrès. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans les personnes âgées, dans les EHPAD, etc., quand une maternelle visite ces dames, parce qu'il n'y a plus que des femmes, les hommes sont morts, hein, l'avenir est aux femmes à 100 ans, ce n'est pas les hommes. Bon. On est d'accord qu'elles nous mettent déjà 10 ans dans le cornet, et après, quand ça déborde, une certain âge, il n'y a plus que des femmes. Bon. Donc, etc. On n'a pas la parité de la survie, hein, on est d'accord. Hein. Et donc, à ce moment-là, tu vois... La juvénilité de ces personnes, même enfouies. Et moi, j'avais un copain là qui avait, il est décédé, qui était un type génial. Il me faisait faire un groupe de centenaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, pédopsychiatre avec 6 centenaires. Il m'a dit, viens, je voudrais que tu fasses un groupe. Elle parle pas, etc. Donc, je reviens sur l'histoire de la petite de Bordeaux qui est psychologue ici. Et donc, alors je me retrouve avec ces femmes, mais sans dents. Je dis, bonjour, mesdames. Je dis, purée, ça va être difficile. Et puis au bout d'un moment, je dis, tiens, sur le jeu de Winnicott, je dis, on dessine. Je leur donne des feuilles de papier, des feutres, elles se mettent à dessiner. Qu'est-ce qu'elles dessinent? La maison anthropomorphique, le chemin avec les petites fleurs et le cyprès phallique, tu vois, en immémoriam de leur mari ou de leur amant décédé. Et elles échangent, elles se mettent à rire. Je dis, mais c'est génial. Tu vois, tu mets des petits-enfants qui dessinent ou elles les aident à dessiner et dans un établissement génial à Alba, dans le Piémont, où je préside le conseil scientifique, là, avec les Ferrero comme soutien financier, donc plutôt convenable, Nutella comme soutien financier. Et donc, on a le fait de 14 cuisinières bénévoles, des grands-mères, qui viennent cuisiner avec les petits en maternelle pour leur apprendre les repas de famille, y compris ceux qui n'ont pas de famille, qui sont... de l'aide sociale à l'enfance du coin, qui sont abandonnés ou adoptés, etc., ou qui sont en difficulté, tout bêtement. Et il y a ces grands-mères qui font un plat avec eux. Et c'est génial. C'est génial de la transmission. Et en même temps, il y a deux langues apprises, et puis le dialecte piémontais qui leur a appris aussi. Tout ça parce que les vieux racontent les histoires du passé, et comme disait Brodel, le grand historien de Méditerranée, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Et ça, c'est fondamental.
Et alors, sur l'importance de l'action et du jeu, comment se fait-il que l'adolescent aujourd'hui continue, prolonge ce jeu si tard ? Et pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser ce jeu, ce principe du jeu, justement dans des jeux vidéo, pour être en interaction directement avec lui ?
Mais Philippe, il décrit des histoires très sympas sur le fait que quand tu es pédopsychiatre, il faut que tu connaisses Warcraft, par exemple, sinon tu passes pour un benet. Si tu le connais pas, si tu joues pas un peu, en plus c'est bonheur, hein. C'est intéressant. Moi, j'avais fait, quand je dirigeais la maison de Solène à Paris, j'avais fait il y a longtemps, hein, c'est en 2003, en 2003, ouais, 2003-2004, il y avait un de mes chefs de clinique, vraiment un garçon remarquable, en plus un très très joli garçon, donc il plaisait aux adolescentes. Et donc, bah, ça compte, ça aussi, l'apparence, il n'y a pas que le virtuel, il y a aussi le réel. Bertrand était. Et il y avait une psychologue lacanienne, donc un peu mutique, qui voulait bien travailler avec lui. Donc elle observait Bertrand, je crois qu'elle était amoureuse de lui, mais bon, bref. Et on fait un groupe d'addicts aux jeux vidéo. Donc c'était que des garçons à l'époque. Maintenant, les filles ont fait des progrès, hein, ça va mieux. Donc il y a six gosses complètement accros, 5-6 heures par jour. Donc ça veut dire une souffrance, plus scolarisée, persécutant leurs parents, etc. Et donc, je dis, ben, vous allez venir jouer avec un psy et une psychologue pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, toutes les semaines, il y a une heure et demie de jeux vidéo, alors programmés, en plus de leur jeu, c'est-à-dire on force l'addiction, c'est comme les fumeurs de hachiche, c'est-à-dire on va faire un pétard ensemble, on va voir ce qui se passe. Enfin, bon. Donc, ça, on l'a pas fait. Ah, donc, je veux dire que... Et donc on fait ça, et au bout de 6 mois, vous savez ce que c'est? Je reçois une délégation des adolescents, mais Ruffaut, faudrait un peu que vous voyez vos collaborateurs là. Je dis pourquoi ils sont devenus addicts du jeu. Hein. Le psychologue et le psychiatre étaient maintenant. Alors c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tu as des. Dans le fond, c'est quoi le toc, la répétition, l'obsession? C'est en fait lutter contre l'idée du temps qui passe et la mort, quoi. L'obsédé reprend quelque chose de ritualisé. Une manie, et donc comme ça... D'ailleurs, il y a un truc que vous devriez faire de manière expérimentale. En rentrant ce soir, ceux qui vivent en couple, vous mettez à la place de la personne avec qui vous vivez. Vous allez voir la réaction. Dans le lit, vous changez, tu vois. Vous dites, j'en ai marre de ton rituel, je dors toujours là. Ça va être un désastre. Après, vous dites, c'est moi. On est pétri de rituels.
D'accord. Et est-ce que vous expliquez ça aussi parce que nous avons un autre rapport au temps?
Oui. On a le temps. Bon, ça c'est ma formation par un grand patron, hein, phénoménologue, quoi. Le temps vécu, Biswanger, Tatossian, etc. Et on a un temps qui est différent. Le temps est une captation, une représentation psychologique qui est différente selon les périodes de notre vie. Rappelez-vous les grandes vacances quand vous étiez petit. C'est incroyable ce que ça durait. Regardez l'été, comme ça passe vite. Hein, purée. Et il a commencé, tac, il est déjà fini. Quoi. Donc le temps qui avance accélère le temps. Et là, j'ai vu un de mes amis là, dans la citadelle à Calvi qui va pas bien. Pourquoi ? Il a eu dans sa vie un drame. Il a perdu son fils d'un accident d'auto il y a une vingtaine d'années. Donc, d'accord. Et il avait sa belle-mère qui vivait chez eux. Et donc il vivait sa femme, lui et la belle-mère dans la citadelle de Calvi. Et elle est morte. Et là, il décompense. Alors qu'il disait, on ne peut plus la supporter, c'est terrible, etc. C'est vrai. Mais pourquoi ? Alors la mort de cette femme renvoie à la mort de son fils et situe sa propre mort. Et il somatise. Il a des respirations comme ça, etc. Alors moi, je suis allé le voir 3 fois. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, je suis allé le voir 3 fois, il m'a remercié, je discutais avec lui de tout ça, en essayant d'être prudent, tu vois. Je voulais pas le déstabiliser. Et vous savez ce qu'il a fait quand je suis parti là, de Calvi là, il m'a donné les clés de sa maison. Il m'a dit, tiens, prends un trousseau, Marcel. non, de dire reviens, quoi. Donc je le trousseau avec moi et je vais retourner le voir pour voir comment son temps se réorganise, comment il repart. Tatosien, mon patron, disait qu'un adolescent va mal, cherche des processus d'anticipation, essaye qu'il se projette vers l'avenir. Pour ça que je demande toujours aux ados, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et quoi qu'il en soit, alors ils veulent tous construire des jeux vidéo ou être rappeur ou footballeur à Marseille. Ça, c'est rappeur, footballeur, Akhenaton et l'OM, d'accord.
Et les filles? Et les filles, elles veulent faire quoi?
Les filles, elles ont changé beaucoup. La parité s'affirme dans je veux être chirurgienne, pompier, conducteur d'avion. Avant, à une certaine époque, avant du Verger, avant Philippe, les garçons voulaient être pompiers, tous. GIGN, dans l'armée. Les filles voulaient être maîtresse, infirmière et maman. Si un garçon disait papa, on faisait psychothérapie. Hein. Et maintenant, je suis sûr qu'il y en a un qui va me le dire. Maintenant, je suis sûr que j'attends la consultation de nos gosses de 4-5 ans qui va me dire je vais être papa. Parce que la parité, c'est ça. La parité, c'est accéder aux mêmes fonctions, aux mêmes pouvoirs, aux mêmes avenirs. Quoi. C'est ça, la parité. Et alors, j'ai un copain qui est venu me voir sur une question de cancérologie. Bon, il a j'allais dire banalement un cancer de la prostate, mais un peu méchant, qui a un peu débordé les coques prostatiques. Donc, il est chirurgien, et lui aussi il s'inquiète. Il me dit, je viens te voir parce que ce cancérologue, il est idiot. Je lui dis, oh, pourquoi tu dis ça? Je le connais, le cancérologue, c'est un pote aussi. Je lui dis, non, il n'est pas idiot, moi, je l'ai toujours trouvé. Non, mais il me dit que j'ai 40% de chances de survie, j'ai 60% de chances de mortalité. Il a raison. Quand on te dit que tu as 40% de chances de survie, c'est pas bonheur, tu as 60% de chances de mortalité. Et alors je ris avec lui, puis il me dit non mais parce que moi je veux vivre, j'ai des choses à faire. Puis il me parle de l'aurore avec les histoires de couleurs, et puis du couchant remarquable en septembre, tu vois. Non et alors bon, et puis il est parti, il me dit eh ben tu vois, je suis content parce que tu es d'accord avec moi, c'est un idiot, j'ai rien dit. Il a tellement projeté que ce qu'il m'a dit est devenu réalité, quoi.
Et dans ce rapport au temps, vous racontez aussi quand même beaucoup que de toute façon, et quoi qu'il arrive, l'accompagnement que vous faites avec les familles et les enfants est une histoire de temps. Il faut accepter que c'est une histoire de temps.
Mais quel est l'avantage de la pédopsychiatrie sur les généralistes qui font presque la même chose que nous, sur les pédiatres qui sont évidemment les spécialistes des enfants, c'est le temps puré. Nous, on met 30 minutes, 45 minutes de consultation. Comment tu veux qu'un généraliste fasse ça? Comment tu veux? Quand il a son cabinet peuplé de 30 à 40 patients. Moi, je dis qu'un psychiatre qui est gaillard, il en voit 15 dans la journée, il est fatigué après. Quand elle a vu 15 minots, donc entre celle qui fait caca dans les couches et l'adolescent qui fume du hakik, et tu rentres chez toi, tu es un peu effondré. Ça tourne dans ta tête et tu vois, tu t'es fait 10 heures d'historicité, de narrativité avec des cas différents. Mais notre avantage, c'est le tempo, et puis aussi la revoyure, le fait de les revoir, de prendre le temps, de dire j'ai pas compris. C'est une discipline de. C'est un métier d'artisan, quoi. C'est de l'artisanat.
Qui disparaît? On médicalise plus qu'avant?
Oh, il y a quelques mecs qui se prennent pour des scientifiques, mais ça va passer. Il y a des types qui sont classification, des M5. Voilà ce test. Ah oui, ça y est, il est hyperactif. C'est les parents qui ont coché. Bon, c'est pas comme ça qu'on joue. Et puis ça va aller parce que moi je vois des trucs, par exemple. Il y a des Marseillais qui réussissent à l'Internat de Paris. Mais ils viennent me voir en consultation après. Ils viennent assister à mes consultations. Donc c'est bon signe. Ils sont à Paris, purée. Il y a tout à Paris. Sauf qu'ils viennent à Marseille voir un archéopsie, moi, pour qu'ils consultent. Et donc je pense qu'ils reviendront à la clinique. En fait, ce qui est déterminant en pédopsychiatrie, c'est la clinique. C'est la rencontre, la conscience qui interroge la conscience. Le fait que l'empathie sensible remplace la neutralité bienveillante, quoi. Que l'autre jour, moi, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Je vois un gosse un peu pénible, mais comme tous les adolescents, quoi. Et lequel s'avance pas. Il me dit, écoute, Ruffo, on va être sérieux maintenant. Je vais vous envoyer ma fiancée. Je dis, pourquoi là, on n'est pas sérieux là. Je te vois à 18h deux fois par semaine. On branle rien, quoi. Mais lui, oh, ça avance pas beaucoup. Mes parents disent que ça sert à rien. Je suis d'accord. amène-moi ta meuf. Alors il arrive, et la petite, au début très défensive, puis elle me dit, écoutez bien, hein, on est là dans mon bureau, tu vois, c'est 19h, tu vois. Puis elle me dit, Ruffo, je voudrais que vous m'aidiez à mourir. Je dis, pardon ? Je suis pas là pour ça. Hein, Elle me dit, oui, mais faut que vous compreniez, j'ai un cancer de l'ovaire. Vous croyez vraiment que j'ai une chance alors qu'il m'opère pas et que je suis sous chimiothérapie? J'ai été bouleversé, quoi. Bouleversé, je dis, écoute, on va se revoir et je suis content que tu aies fait l'effort de venir parler de ça. Et je suis pas sûr qu'elle revienne. Je suis pas sûr. Parce que mon émotion a montré ma fragilité aussi. Mais je pouvais pas ne pas être ému devant cette gosse à 17 ans qui va mourir de ce tueur silencieux qui est le cancer de l'ovaire. Le fils, c'est pas un mec en béton armé, quoi. Et mon émotion était gênante parce que c'est elle qui vient, c'est pas moi qui viens en consultation. Or là, je me suis mis en consultation avec elle. J'ai basculé vers quelque chose qui était au fait, aide-moi à supporter ce que tu dis, alors que c'est moi qui dois supporter ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est une maladresse d'émotion, de sensibilité, mais... Et alors, c'est drôle. Voilà, je viens de comprendre, c'est drôle, la psy. Je suis allé sur le tombeau de mes parents l'autre jour, à la Toussaint, comme tout le monde. Et donc, c'est à Saint-Anne-des-Venos, c'est un joli tombeau, où bientôt je serai, tu vois, c'est bien. Je sais, j'ai même fait un trou dans le tombeau, je leur passe des articles de presse, qu'il y a un truc élogieux. Il y avait un bel article sur Le Monde, il y a quelques mois, j'aurais fait lire, tu vois, j'ai dit, passez, lisez ça, regardez votre petit, bon... Et puis comme ça, quand je flotterai dans le monde plus tard. Alors donc, et là, je passe au Bossé, c'est avant le village, et là, il y a un garage, qui s'appelle Sheila, tu vois. Et je sais que quand j'étais interne, il y avait un enfant de cette famille leucémie qui est mort, quoi, tu vois. Et j'ai pas oublié, j'avais suivi cet enfant, discuté avec la famille, et donc comme une cicatrice psychique qui marque ma destinée, quoi. Oui, donc, et c'est vrai que à l'époque, qu'est-ce que je devais être incompétent? Enfin, je me rappelle, j'étais interne, tu vois, donc je comprenais rien, quoi. On est honnête, c'est les patients qui forment les psys, hein. C'est pas les profs de psy. Moi, je signe des diplômes, mais je sais très bien que les patients vont les former, hein.
Oui, et les adolescents sont en lien les uns aux autres. Vous donnez des exemples en fait d'adolescents qui vous amènent finalement leurs copains qui vont pas bien. Ils vous parlent pas forcément, mais ils ont suffisamment confiance en vous finalement pour amener les copains.
Ben, les maisons d'adolescents que j'ai créées là en 2004, là, qui après ça a été une épidémie nationale, il y en a de partout, et tant mieux, c'est bon. Et ils t'essayent, ils viennent voir un peu ce que tu as dans le moteur, tu vois. Ils disent, bon, alors écoutez, ça va, moi ça va, mais il y en a un dans la classe qui va pas bien, il te l'amène, tu vois. C'est génial, c'est parce que qu'est-ce qu'ils te disent, les adolescents? J'ai pas besoin de les revoir, je parle à mes copains. Or, tu parles jamais à tes copains. À tes copains, tu veux être extraordinaire, tu veux être unique et semblable à eux. Tu l'imagines, unique et semblable aux autres. Une période compliquée, quand même, hein, qu'on a tous passé, dans laquelle on est tous passés. Et donc, ces maisons d'adolescents, c'est un dispositif vraiment de santé publique. Parce que regardez, 85% des adolescents en France vont bien, hein, 15% vont mal, mais ça représente 600 000 personnes. Hein. 600 000 personnes, donc c'est pas un petit sujet. Hein. Ça peut être cause nationale, c'est fait avec les maisons d'adolescents. Mais 2004, quand même, 2004, la conférence de la famille que je présidais, oh, 2018, il y en a 108 en France. C'est génial, je veux dire. Et toutes différentes, originales, intéressantes. Et moi, je rêvais d'un truc de radio inter-maison d'adolescents, tu vois, ou une web radio avec des images. Qu'elle communique, que des groupes d'adolescents parlent aux autres de région en région. Ça aurait été sympa. Faut voir.
Je vais vous poser une dernière question parce que ça passe très vite et puis les gens qui sont là auront peut-être des questions à vous poser. Dans votre livre, vous avez une phrase parmi... Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui a retenu mon attention. Vous dites « L'humiliation ne s'oublie pas ».
Non. Non, l'humiliation... Regarde, dans la loi votée par nos députés, là, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils ont associé la fessée à l'humiliation psychologique. Ça me plaît, ça, cette partie psychologique. La fessée, bien sûr qu'il ne faut pas donner de fessée. Sauf que tu as ta petite fille en charge, elle traverse la rue et tu as eu peur. Je lui dis, non, il ne faut pas le faire. Tu la lâches, elle recommence. T'es pas loin, hein, de... T'es pas loin, tu vois. Tu maîtrises plus rien, tu as eu peur. Et donc, c'est pas que tu es un battant, c'est pas que tu es un agressif, c'est que... Mais en même temps, tu as perdu pied. Mais surtout, dans la loi, ceux qui disent, nos élus, là, nos députés, nos représentants, ils disent les coups psychologiques, quoi. Et je trouve que lorsque un enfant, un adolescent voit la déception de ses parents, il y a un gosse là un adolescent qui a un énorme handicap. Ses parents sont universitaires et vraiment très très très, très intelligent, quoi, presque trop, tu vois, je veux dire. Mais je peux pas diminuer leur QI, je peux pas. Mais ils ont, tu sais, quand t'as des gens plus intelligents que toi en consultation, c'est toujours un peu gêné. Ils sont intelligents, quoi, mais ils sont un peu casse-pieds de leur intelligence. Et lui, il me regarde, il me fait, le gosse, il me regarde, il me fait, tu vois. Parce que le père, il me branche, il me dit, écoutez, je vous ai envoyé un mail, il faut que vous soyez moins désordre. Mais je dis, je suis désordre. Il me traite, le mec, tu vois. Il dit, comme ça, vous organisez mieux notre rencontre, sinon vous partez dans tous les sens. Je dis, oui, mais je fais toujours ça. Je dis, et le gosse, il me fait, tu vois, de l'autre côté. Bon. Et j'ai dit, écoutez, moi, ma mission, monsieur, c'est de dégrader la scolarité de votre fils. Alors il me regarde et dit, oui, parce que s'il est comme vous, il va pas avoir d'amis. Je lui dis, toi, je mobilise mon compte en transfert. Ça, lui, hein. Je lui explique qu'il m'emmerde, quoi. Hein. Alors il comprend pas, il me dit, mais enfin, vous êtes bien professeur à la faculté, vous aussi. Je dis, non, mais ça compte pas, ça, c'est un coup de chance. C'est parce que je faisais de la voile avec le doyen de la fac, je veux dire. C'est vrai, en plus. Quand tu convois le bateau du doyen, tu as des chances d'être nommé. Et alors, quand je dis ça à ma fille, elle hurle de colère. Hein. Mais c'est vrai que je convoyais le bateau du doyen. Alors, donc, je veux dire, ce gosse, il n'arrive pas à remplir le mandat intergénérationnel qu'on lui tend, qui est trop haut, quoi. Tu vois, tout le monde n'a pas la chance d'être d'origine modeste, quoi. Et donc, de la spirale républicaine, le fameux truc des hussards de la République et de la Troisième République, les enseignants comme le père de Marcel Pagnol, ça, c'était génial. Maintenant, tu vois, c'est plus Mariol, quoi. Et il faut faire attention aussi à ces milieux dits privilégiés où la souffrance peut apparaître de manière dans les images projetées sur soi. Et donc, ce gosse, je sais qu'il échoue, quoi. En étant heureux, mais c'est compliqué avec le père qui a compris ma morbidité avec le fils. Je veux qu'il échoue tranquillement, quoi. Donc il y a des pédopsies dangereux, donc moi, oui. mais c'est plus dans le fait que je dis ça, et c'est une boutade. Il veut se tuer quand même. Il veut se tuer en réalisant pas le mandat. Moi, je préférais qu'il vive. Et l'autre jour, tiens, je termine par ça parce que c'est vachement beau. Je vois un gosse plein de pétards, fils d'orthopédiste marseillais, bon. Et plein de pétards, 10 pétards par jour. Pas le... Non, le... Avant de partir, tu vois, bon. Un peu malin, donc il en vend pour avoir les moyens, un peu malin. Et il se fait casser la tête par des mecs dont c'est le vrai métier, quoi, tu vois. Donc je le vois cabosser. Et puis il me dit, le gosse, il me dit, sortez-moi de Marseille, il me dit, tu vois. Sortez-moi de Marseille. À ce moment-là, par miracle, j'ai un de mes élèves qui fait un truc Erasmus à Buenos Aires, tu vois. Je l'appelle, je lui dis, vous pouvez pas trouver un emploi de serveur là, dans un bistrot de la capitale de l'Argentine, là où est notre président, tiens. Et alors, je veux pas qu'il traverse la rue, donc il traverse l'Atlantique, le gosse, et il est serveur. Je l'envoie serveur à Buenos Aires. Non, je le sors du milieu marseillais et de lui aussi. Et c'est pareil, les parents acceptent, débarrassez-nous de lui, tu vois, méchamment. Rejet et transfert. Puis après, je perds un peu sa place. Je l'ai revu cet été, encore à Calvi, décidément Calvi tourne autour de ma tête, quoi. Je vois un gosse un peu gaillard, tu vois, gaillard qui me plaît, je me dis, Marcel Ruffo, je voulais vraiment vous remercier. Et puis je dis, mais je vois sa tête et c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Marseille au bout d'un an de serveur dans les bistrots de Tango, là, de la capitale argentine, et il s'est engagé dans l'armée. Il est maintenant sergent et il fait l'école des officiers. C'est génial, quoi. C'est génial. Tu vois, et je dis, bah, écoute, vraiment, je suis, ravi de toi et vraiment tu m'écriras quand tu auras réussi de pénétrer dans l'école des officiers, où je suis sûr que tu dirigeras le deuxième REP et tu auras réglé le Mali, tu vois, parce qu'après il faut être quand même dynamique, hein. Et il est et j'ai trouvé changé. J'ai trouvé entre le petit toxico effondré coupable et le sergent qui fait Saint-Cyr, qui va grandir dans la carrière militaire, j'ai trouvé que, tu vois, alors j'ai jamais pensé qu'il finirait dans la Légion. Quand je vois, si j'envoie tous les toxicos dans la Légion, je vais dégrader ce corps d'élite. Mais là sur le coup, c'est de dire, tu vois, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Il me dit, sortez-moi de Marseille. Je dis bon coup.
Merci beaucoup. Merci Marcel Ruffo.